Depuis presque un an maintenant, l'Atelier des médias est partenaire du cycle Culture numérique de la BPI, la Bibliothèque publique d'information basée au centre Georges Pompidou, au cœur de Paris. Chaque cycle compte 4 conférences que j'ai le plaisir d'animer en public. Après 2 premières rencontres, l'une sur la publicité, l'autre sur le travail, nous nous sommes réunis le 26 mai dernier pour parler de villes connectées. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter de larges extraits de cette table ronde sur la ville de demain. Et si vous êtes un auditeur fidèle de l'atelier, vous avez peut-être deviné qu'un de nos invités est un habitué de l'émission. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Tout et chacun est potentiellement média aujourd'hui, d'où l'importance de réfléchir ensemble chaque semaine sur le sens et les conséquences de notre mise en réseau.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Pourquoi penser la ville de demain ? Doit-on l'imaginer intelligente, connectée, smart, sage, durable, urbaine, verte, bourrée de capteurs, de technologies nouvelles ? Est-ce d'ailleurs des interrogations et des problématiques pertinentes, ou bien est-on victime du marketing et d'un effet de mode où la ville connectée est avant tout un concept Eldorado pour entreprises influentes et édiles en quête de discours tendance ? Doit-on raisonner dans le futur alors que notre ville est déjà bourrée de machines, de services, de données, de caméras, sans parler des capteurs et producteurs d'informations de masse que sont les smartphones dans les poches des citadins? Doit-on d'ailleurs se projeter en termes de ville? On ne cesse de rappeler que la moitié de la planète est aujourd'hui urbaine et que demain ce sera la grande majorité des citoyens du monde qui sera citadine. Ceci étant, l'Internet abolit beaucoup de frontières et permet d'imaginer des futurs connectés, bien que disséminés dans un territoire plus hybride, plus aéré. Déjà aujourd'hui, quand on parle de ville, on embrasse des réalités extrêmement différentes. Je songe à tout ce qui sépare Berlin de Paris, Londres de Rome, la liste est infinie. Doit-on envisager la ville comme un espace physique ? Quelles sont alors ses frontières, ses sous-divisions ? L'individu, la famille, l'habitat, l'immeuble, la rue, le quartier, l'arrondissement ? Quelle place pour la banlieue, la conurbation aussi ? En plus de la couche physique de ces réalités géographiques, quid de l'analogique, du numérique ? Doit-on envisager la ville comme entité politique, alors du point de vue de la mairie, des entreprises, des individus, de nouvelles formes de collectifs ? Entre utopie et dystopie, que nous apprennent les expériences, les études, les projets, les politiques qui se comptent maintenant par milliers de villes nouvelles, smart, connectées ? Pour traiter cette vaste question, nous avons 4 invités, 4 excellents spécialistes du numérique, de la prospective, de la ville, de l'urbanisme et de la réflexion sur notre présent et probablement aussi notre futur. Bonjour Francis Pisani. Alors je commence avec toi parce que je pense que ton parcours est emblématique de l'importance que la question de la ville est en train de prendre. Pour expliquer, on travaille ensemble depuis maintenant 4 ans. Quand on a commencé, tu vivais dans la Silicon Valley où tu couvrais depuis 15 ans à peu près l'actualité des nouvelles technologies. Tu as décidé ensuite de quitter ce cœur de l'innovation mondiale pour aller vérifier aux 4 coins, aux 4 courbes du monde, une intuition que tu avais. Cette intuition, c'était celle que le monde de l'innovation était désormais multipolaire, c'est ça ?
Exactement.
Et tu as dédié 3 bonnes années à l'exploration de l'innovation dans le monde. Ça s'appelait Winch 5, c'était un tour du monde morcelé. Depuis près d'un an, tu consacres ton travail de vigie et d'éclaireur à la ville. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Ce qui est fascinant quand on a été à Silicon Valley, puis dans le reste du monde, c'est qu'on est toujours en contact avec des geeks qui inventent un peu n'importe quoi, qui lancent et puis on voit ce qui marche. Alors que quand on parle de la ville, c'est l'endroit où les geeks rencontrent la société. Et ça change tout. Juste un exemple concret. La ville de Singapour, qui est un peu particulière parce que c'est une ville-État, parce que c'est la ville la plus riche du monde, aborde les problèmes en organisant des hackathons pour la ville. Donc des hackers, c'est-à-dire des gens qui sont des spécialistes du bidouillage informatique et qui se réunissent. Et la formule traditionnelle, c'est on se rencontre un vendredi soir ou un samedi matin et on a 48 heures ou 36 heures pour, en groupe de gens qui ne se connaissent pas, inventer une application. Donc c'est encore une fois vraiment du n'importe quoi, du génial de temps en temps, pas toujours. Et beaucoup de nos technologies, de plus en plus, viennent de ce genre d'exercice. Quand on fait ça sur la ville, c'est plus compliqué parce que il s'agit pas de proposer n'importe quoi. Il s'agit d'essayer de résoudre, de répondre aux problèmes de la ville. Et cette rencontre de la technologie, de la dynamique, des mécanismes qui ont prouvé leur efficacité dans la dynamique de l'innovation partout dans le monde, à la problématique des villes, je trouve ça absolument extraordinaire. Et puis je le dis tout de suite, le souhaitable, c'est peut-être une des façons de réinventer le politique, parce que c'est l'endroit où les gens éventuellement se connaissent dans la ville, où ils peuvent se servir des technologies de l'information et où ils ont des outils pour travailler ensemble.
Je vais te citer.
Oh.
Et maintenant, je centre mon attention sur les villes, pour la bonne raison que c'est là que l'impact des technologies sur les sociétés est à la fois le plus facile à appréhender et le plus important. Mobilité, préservation de l'environnement, développement durable, nouveaux types de socialisation, économie d'un nouveau genre, partage par exemple, tout peut être revu, corrigé et relancé sur des bases innovantes au niveau de la ville. Ça, c'est un petit peu le manifeste de ton intérêt pour la ville.
Absolument, et si tu me permets, je voudrais le connecter à... Je ne sais pas si ça me plaît plus de dire quatre révolutions ou quatre déplacements tectoniques. On peut choisir l'un ou l'autre suivant le choix de vocabulaire qu'on a. Et il y en a une qui est les technologies de l'information, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on sait ce que c'est. Mais c'est extrêmement important dans la modification de la gestion des villes, pour une raison simple, c'est que la population des villes augmente alors que leur budget descend, et le recours aux technologies de l'information peut être une solution pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le deuxième déplacement tectonique, c'est l'urbanisation. Je n'arrête pas d'avoir les bras qui tombent quand je lis des articles tous les jours. Le dernier que j'ai lu ce matin, et je crois qu'il est pas très loin de la vérité, mais j'ai pas eu le temps de le vérifier, c'est que la population urbaine va doubler dans les 35 prochaines années.
Elle va passer de 3 milliards aujourd'hui à 6 milliards environ.
C'est un peu plus de 3 milliards, un peu moins du double, enfin bon, mais c'est de cet ordre-là.
Et aujourd'hui, elle représente à peu près 50% de la population mondiale, et elle représentera 70% à peu près en 2050.
Mais moi, j'en étais aux 50-70%, ça fait une augmentation de 20%, mais pas au doublement, donc on en découvre tous les jours. Le troisième élément, c'est la conscience croissante, insuffisante, mais croissante, de la problématique climatique. Nous avons été éduqués, nous avons souffert les villes comme source de problèmes, et en fait, il y a une école croissante qui dit que les villes, c'est une source de solution. Plus exactement, je ne sais pas si c'est une solution, mais si on ne résout pas les villes, le problème de l'émission, pas des villes, le problème de la pollution, etc., on est sûr de ne pas résoudre le problème au niveau d'ensemble, alors que si on se donne une chance de le résoudre au niveau des villes, on peut arriver, et c'est peut-être plus facile au niveau des villes que d'une façon globale. Et le quatrième point dont on parle peu, mais qui me paraît extrêmement important, c'est le déplacement tectonique de la géopolitique. Avec aujourd'hui la moitié de la population qui vit entre le Japon, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, et le fait, alors en termes de villes, je n'ai pas encore bien précisément les chiffres indiens, mais les chiffres chinois, donc il y a eu 500 millions d'habitants qui se sont urbanisés au cours des 35 dernières années. D'ici à 2030, on parle de 15 ans, il y aura la construction de 20 à 50 000 gratte-ciel, et en 2030, un huitième de l'humanité vivra dans des villes chinoises. Et alors, ce qui est vraiment important à comprendre, enfin pour moi, qui me provoque, c'est que quand je vais dans une ville nouvelle, comme j'étais à Songdo,
on va en parler dans un instant,
c'est facile de dire ça marche pas. Et en gros, on sait pas faire des villes nouvelles. Mais il n'est pas pensable d'avoir une urbanisation du type avec les chiffres dont que je viens d'évoquer, sans la création de villes nouvelles. Et donc là, on est devant des problèmes d'humanité et de société qui sont fondamentaux.
Ces réalités que tu évoques, notamment ces chiffres, ce potentiel pour l'avenir, n'ont pas échappé aux grandes entreprises. On cite souvent IBM, Cisco, Schneider, etc., etc. Quel rôle elles jouent pour toi dans l'émergence de ces interrogations sur les villes nouvelles, les villes intelligentes, les villes connectées? Quel rôle jouent ces entreprises?
On va commencer par être gentil avec elles, et c'est grâce à elles qu'on parle de smart cities. Quand je dis gentil, c'est parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Encore que moi, je n'aime pas le terme smart cities parce que aucune ville ne le sera jamais, ou on saura jamais ce que c'est. Je préfère la notion de city smarting, que j'arrive pas à traduire en français, qui est comment rendre intelligentes les villes, c'est-à-dire plus qu'un état, un processus.
Et d'ailleurs, au passage, la traduction de smart en intelligent est pas non plus extraordinaire en français, puisque smart, ça veut dire malin aussi, c'est pas simplement intelligent.
Tout à fait d'accord. Donc, on leur doit d'avoir mis ça sur la table et, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est à Bill Clinton qu'on doit ça, qui lors d'une conférence a dit aux gens de Cisco, avec tout votre truc, toutes vos technologies, toute votre infrastructure, vous devriez améliorer nos villes. Et ensuite, le porte-drapeau, c'est plutôt IBM. Cisco a beaucoup participé, mais s'est retiré. Schneider Electric, Siemens, les Chinois, Huawei. Et en gros, ces gens-là nous obligent à parler du sujet, mais ils ont une vision unidimensionnelle du sujet, c'est l'installation d'infrastructures, c'est ce qu'ils vendent, et avec cette infrastructure, le recueil de données, et ces données sont censées nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la ville, et donc d'agir. Exemple simple, on a des caméras, on a des senseurs, des capteurs partout, on voit la circulation en temps réel, et on peut changer les feux rouges, on peut déplacer des flics, etc. Donc ça, on a les données qui permettent de faire quelque chose. Mais les technologies de l'information, depuis en tout cas le départ de l'informatique personnelle, il y a toujours eu deux grandes écoles. Il y a eu l'école intelligence artificielle donnée, qu'on trouvait autour du Stanford Research Institute à Menlo Park, en Californie. Et il y avait les gens qui prenaient du LSD, qui étaient des militants contre le Vietnam, et qui étaient plus pour l'intelligence augmentée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se servir de tout ça pour faire quelque chose de mieux et de plus intéressant. Et pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment une grande tension riche, il faut éliminer aucun des deux, mais il ne faut pas s'en tenir à un seul point, entre les gens qui veulent recueillir des données, les gens qui parient ou qui s'intéressent à la communication horizontale, à la participation citoyenne. Et je voudrais juste terminer avec un exemple qui vient de Séoul et non pas de Songdo en Corée. C'est qu'ils ont découvert, et j'ai trouvé ça fascinant, donc la Corée du Sud est un pays extrêmement actif et puissant en termes de technologie de l'information. Séoul est une ville de 10 millions d'habitants dans un ensemble de 25 millions d'habitants. Et ils ont découvert que c'était trop cher pendant les 10 ou 15 prochaines années de mettre des capteurs pour avoir des informations. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux. Un, les téléphones que nous avons dans nos poches, qui peuvent recueillir des données. Et puis ils ont fait un truc très simple. Ils ont imposé aux 25 000 taxis de la ville un système d'accepter, ce qui est très courant en Corée, le paiement par carte électronique. Donc on a une carte électronique qui n'est pas exactement une carte de crédit. Et en mettant le dispositif dans les taxis, ils ont mis un dispositif GPS et 25 000 taxis enregistrés avec un dispositif, avec une connexion GPS, c'est suffisant pour avoir une idée qui permet d'agir sur le trafic en temps réel dans la ville de Séoul.
Bonjour Émile Loge.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des technologies de l'information et de la communication appliquées à la ville, c'est ça ? Plus ou moins ?
Si on veut, oui. Et surtout aux usages de ces technologies dans la ville.
Et vous êtes consultant au sein de Novaset, qui est une agence d'études pour les entreprises et les collectivités, qui est spécialisée dans l'univers des villes intelligentes, l'avenir des villes.
Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille sur le développement de services innovants dans les villes et sur les usages de ces services, qui s'appuient souvent sur des technologies aujourd'hui. Mais
alors, j'ai vu que vous aviez pris pas mal de notes. J'imagine que vous souhaitez réagir ou ajouter des choses à déjà tout ce qui s'est dit ?
Moi, je connais moins les villes nouvelles dont parlait Francis à l'instant. Moi, je m'intéresse en particulier aux villes plutôt européennes, qui sont des villes anciennes, mais dans lesquelles on déploie aussi des technologies connectées, du numérique. Il y en a aussi dans nos villes. Et on retrouve les mêmes entreprises. On va retrouver IBM, mais qui va s'allier avec Veolia Environnement ou avec des constructeurs immobiliers, avec des Toshiba, etc., pour mettre des technologies dans la ville. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller observer qu'est-ce qui se passe quand ils mettent ces technologies dans la ville. Concrètement, moi, je vais aller regarder et accompagner ces entreprises ou les collectivités qui pilotent ces projets-là pour essayer de voir et d'essayer de les accompagner pour que ces technologies, ces usages, ces technologies soient mieux appropriées par les gens qui vivent dans ces villes. Concrètement, moi, quand je regarde les projets que l'on voit de déploiement de technologies dans la ville, en général, je les regroupe en trois familles. Et c'est trois promesses que la technologie fait à la ville. La première promesse qu'elle fait, c'est d'optimiser la ville autour de vous, de vous rendre la ville facile. Donc, elle va mettre, ces entreprises et les collectivités vont mettre des capteurs, vont mettre des algorithmes des logiciels qui vont faire fonctionner la ville de manière la plus efficace possible autour de vous.
Ça, c'est souvent la vision des entreprises ou l'offre proposée par IBM, Cisco, etc., de villes smart, connectées, intelligentes.
Oui, mais on retrouve derrière des logiques d'efficacité. C'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer la circulation dans une ville, d'améliorer la consommation énergétique, éviter les pics de consommation énergétique. Et quand on regarde les pratiques des gens par rapport à ce type de promesses, finalement, quoi, moi, ce que j'observe, c'est une forme de conformisme. La plupart des gens disent, bon, bah, ok, on a mis des capteurs partout, des caméras. Quand je prends les transports en commun et que je badge avec mon passe Navigo ou je sais pas quoi, l'entreprise qui gère les transports sait où je suis. Mais c'est pour le bien, c'est pour la bonne cause. C'est pour améliorer le service. Alors, il commence à y avoir des petites questions dans la tête des gens quand on interroge les usagers de cette ville. Ils s'interrogent sur ma vie privée. Est-ce que j'ai envie de savoir, que tout le monde sache où je suis tout le temps?
Et vous dites d'ailleurs que cet apport de la ville connectée transforme un peu le citadin en objet qui va permettre de collecter des données, et ça pose la question de qui peut utiliser ces données. Est-ce qu'elles sont ouvertes, accessibles, etc.
Voilà, cette première promesse de la ville intelligente. Elle a une utilité parce que ça rend la ville plus facile autour de vous, mais ça pose des questions. Il y a une autre promesse qui est en fait celle qui attire le plus d'attention des habitants de la ville, des citadins, c'est la promesse de vous offrir des services faciles, c'est la promesse de la ville servicielle. La ville qui vous offre plein de services pour vous faciliter la navigation, les déplacements, améliorer et vous donner des bons tuyaux de où il faut aller déjeuner dans un restaurant, des bons tuyaux pour réduire votre consommation électrique.
Une promesse qui est d'ailleurs à plus d'un titre déjà tenue, hein, parce que les services pour faciliter l'utilisation de la ville sont maintenant pléthoriques et beaucoup de gens les utilisent au quotidien.
Voilà, la promesse, effectivement, elle est déjà en partie là, mais la promesse qui est portée par les entreprises, par les collectivités qui déploient ce type de service, c'est d'être toujours encore dans une logique de facilitation de la vie quotidienne des gens. Et ça renvoie à nos instincts consuméristes, c'est-à-dire qu'on va se dire c'est super, on m'offre plein de super services, en plus c'est gratuit.
Et donc après le citadin objet, là c'est le citadin consommateur.
Et la dernière promesse de la ville intelligente, c'est de faire participer les gens. Et ça, même on la retrouve même dans les grandes entreprises. Si vous regardez les discours officiels des IBM, etc., ils vous disent, mais nous, on fait la ville intelligente avec des technologies pour les gens. On met à disposition des outils pour qu'ils puissent participer à la construction de la ville et profiter de cette ville en y contribuant. Alors ça c'est dans les discours. Dans les faits, ils essayent de déployer des outils pour demander l'avis aux gens, des sondages pour demander l'avis des jeunes sur des projets de la ville.
Ou des applications qui permettent de dire quand il y a un trou dans la chaussée ou quand il y a un feu qui ne marche pas ou un lampadaire qui est éteint, etc.
Voilà. Donc voilà, ça c'est trois promesses de la ville intelligente, de la ville connectée. Moi, j'aime bien les confronter à la réalité des pratiques des gens.
Et votre recommandation, c'est donc de s'appuyer sur ce que vous appelez les citadins intelligents. Et vous écrivez ceci. En adoptant ainsi le point de vue des citadins, nous comprenons bien que le numérique est déjà très présent dans leur vie, dans leur routine quotidienne, mais aussi dans leur manière un peu rebelle de bricoler la ville autour d'eux. L'enjeu aujourd'hui est de s'appuyer sur ces intelligences de la ville pour fabriquer ensemble une ville intelligente qui a du sens et dans laquelle les citadins se reconnaissent.
Alors j'avais écrit ça effectivement il y a quelques mois et je survalorisais peut-être un peu la capacité de rébellion des citadins. Après coup, et en prenant du recul, en allant vraiment voir les gens, mais dans ce que j'ai dit, il y a un terme qui me paraît important, c'est le ensemble. Et la solution elle est peut-être là, quoi. C'est peut-être ça ma recommandation, c'est d'essayer d'arriver à mettre en place des dispositifs qui permettent un vrai dialogue entre les citadins, les collectivités et les entreprises qui déploient ces technologies, de trouver des vraies collaborations. Il y a quelques exemples intéressants qui permettent vraiment de faire ça, mais c'est pas chose courante.
On marque une courte pause dans l'atelier. Rendez-vous de l'autre côté du flash. Nous serons toujours à Beaubourg, à la BPI, pour parler des villes et de leur futur.